Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Alors Louis, bonjour Alexandre et merci pour ces compliments très chaleureux, ça va me droit au cœur. Alors, après deux chroniques sur l'Iran, retour en France. Et retour à notre cher président, qui se remet doucement du flop de l'antivirus. Vous vous souvenez de cette histoire? Cette tentative un peu désespérée de remettre une pièce dans la machine covidiste. Et heureusement, ça n'a pas pris. Les gens ont déjà donné, et surtout, beaucoup se sont réveillés depuis cette période-là. Parce qu'il faut bien le dire, le Covid a cassé quelque chose. Définitivement. La confiance n'est jamais revenue. Et quand on écoute quelqu'un comme Mourad Boudjelal, on comprend vite pourquoi.
Si demain on nous présente un nouveau vaccin ARN contre l'antivirus, qui se fait vacciner?
Bah, si on est en pleine épidémie d'antivirus, oui. Moi je me ferais vacciner, oui.
À l'instant T, non, puisqu'il n'y a qu'un seul cas en France.
Karl?
Ça dépend s'il y a beaucoup de cas.
Bah oui, ça dépend du nombre de cas.
Il est mortel, oui. il a une grosse mortalité, donc moi je me ferais vacciner.
Il a une plus grande mortalité que le Covid, donc potentiellement il peut être plus dangereux.
Moi
que
je vais
COVID,
dire la seule chose, qui me faisait peur.
Et toi, Mourad?
Non.
Ah bah non.
Moi je me ferais plus vacciner.
Jamais
non. Sur quoi que ce soit.
Moi, je suis devenu totalement complotiste. Je sais pas ce qu'on m'a. Je me suis fait vacciner 3 fois. Et je sais pas ce qu'on m'a foutu dans le bras. Donc.
Franchement, on a échappé au pire. Le retour de cette époque complètement dingue, où du jour au lendemain, des gens respectés devenaient infréquentables parce qu'ils posaient les mauvaises questions. Et certains en payent encore le prix aujourd'hui. Le journaliste Marc Menant le raconte très bien.
Le personnage infréquentable, est-ce que le professeur Raoult, il le subit, le professeur Perron, il le subit, le docteur Fouché deviennent des personnages qui, au départ, avaient une aura indiscutable. À la limite, les médias les appelaient quand il s'agissait de paraître et de dire, regardez, le nombre de publications qu'ils ont et qui montrent que la France est puissante dans le domaine de la recherche et de la médecine. Eh bien, soudain, parce qu'ils avaient un propos différent, ils étaient dépestiférés, et là, c'était plus la quarantaine, c'était l'exclusion. Dont a été victime également, souvenez-vous, le professeur Montagnier, paix à son âme, qui avait été glorifié par le prix Nobel de médecine.
Macron va donc devoir trouver autre chose, et vite, parce que mine de rien, la fin approche. Enfin, la fin de son deuxième mandat. Un mandat interminable quand même. Bon, il y en a qui l'ont plutôt bien vécu malgré tout, surtout dans certains milieux très aisés, très parisiens, très hors sol aussi parfois. Il suffit d'écouter l'actrice Virginie Ledoyen parler de ce président si élégant. Si séduisant, presque romantique.
Mais il a un côté très dandy, séduisant. Il a un côté très héros de série des années 60 avec sa voiture de sport. Je trouve qu'il a, il y a quelque chose de parfait. Donc avec les lunettes, je trouve que ça accompagne ce personnage-là.
C'était cohérent au fond.
Oui, tout à fait. Oui.
Et ça colle assez bien avec l'ambiance qu'on voit en ce moment à Cannes. Ce petit monde qui adore se retrouver entre soi. D'ailleurs, le festival regroupe en ce moment les plus grandes stars du cinéma français. Aurore Berger, Najat Vallaud-Belkacem, Delphine Ernotte ou Jean-François Copé, bref, tout le gratin. Et dans ce festival de Cannes, nous avons pu entendre des questions tout à fait objectives, posées par des journalistes tout à fait neutres, face à un Gilles Lelouch un peu désabusé.
L'année prochaine se dérouleront les élections présidentielles en France. Le Rassemblement national, fondé par certains des collaborateurs de Klaus Barbie, traître à leur nation, ont une chance d'arriver au pouvoir. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la Résistance? Question pour Gilles Lelouch, s'il vous plaît.
Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur.
Lunaire. Et pour comprendre comment fonctionne ce petit milieu de l'intérieur, l'avocat Charles Consigny a raconté une anecdote très parlante. Lorsqu'il était chroniqueur dans l'émission On n'est pas couché.
Quand j'étais chroniqueur dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait de ma vie, je me suis envoyé toute la production culturelle française pendant un an. Les films, les livres, etc. Mais il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire que c'est l'URSS. On met dans la tête des gens, on met le communisme dans la tête des gens. Je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que tous les films
parce
sont...
que c'est sûr que pour toi, Hollande,
tous les films sont...
C'est déjà Staline, donc c'est
tous
sûr que pour
les
toi,
films,
film.
Tous les films sont idéologiques. De toute façon, d'ailleurs, maintenant, ils doivent même cocher des cases idéologiques pour avoir une chance d'avoir un financement.
Oui, mais du coup, Canal produit
bien
Poutine
de
France. Et donc, là, il y a un
c'est
petit...
C'est pas un procès d'intention, c'est ça que je...
Il y a un petit retour de bâton de la part de Canal. Moi, je pense que Je suis pour la diversité dans le cinéma, mais alors toute la diversité. Et je pense que ces professionnels doivent aussi regarder le pas de leur porte.
Et forcément, ça commence à fatiguer pas mal de Français. Même Jacques Legros, le journaliste respecté, a fini par le dire avec ces mots.
Le Festival de Cannes, c'est quoi ? C'est un rassemblement de trous du cul qui pose devant des photographes dans des tenues incroyables, rien que pour paraître. Et qui n'aiment même pas le vrai cinéma populaire, c'est que des films qu'on n'ira même pas voir. Alors, je suis désolé, oui, je suis un peu abrupte, certes, Fred, mais quand même, il y a un peu de ça dans ce que je dis.
Bon, je vais tenter de rester un peu plus poli que lui. Mais pour revenir à Macron, ces deux quinquennats ont été rythmés par des gifles électorales. Et certaines, il les a vraiment senties passer. Brigitte Macron avait tenu à lui en administrer une à la sortie d'un avion, sauf que les caméras du monde entier étaient présentes. Une séquence devenue culte qu'il avait tenté de justifier ridiculement.
Fallait pas plus pour éveiller la curiosité des journalistes qui suivent le déplacement. Ils ont sollicité l'Élysée qui, dans un premier temps, dément, suggère des images générées par intelligence artificielle, relayées notamment par des comptes pro-russes avant, au final, de reconnaître l'authenticité de la vidéo publiée par les agences de presse officielles. L'entourage du président de la République décrit un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant, un moment de complicité.
De l'IA, relayée par des comptes pro-russes. Quelle horreur! Quasiment un mensonge proféré par les plus hauts sommets de l'État et qui cible toujours les mêmes personnes. Le journaliste Florian Tardif a enquêté et a dévoilé la vraie raison de cette baffe républicaine.
Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu un message d'une personnalité connue, une actrice iranienne, Golshifteh Farahani.
Ah bon, vous donnez son nom carrément ?
Je donne son nom, tout simplement parce que ça a été à un moment donné des rumeurs qui ont couru dans Paris. Ce n'est pas une rumeur. Je l'ai dit concrètement à l'Élysée, c'est une version qui n'est pas la leur. C'est une version que j'ai recoupée, tout simplement parce que tout ce qui est présent dans le livre, ce sont des faits et uniquement des faits. Et le président de la République, depuis quelques mois, ce n'est plus le cas, mais pendant quelques mois, a entretenu une relation platonique.
Et sur GPTV, le journaliste Xavier Poussard analyse l'impact que peut avoir toute cette rumeur sur le couple et prévient qu'ils sont bien décidés à rester en place pour continuer à détruire le pays, notamment par l'immigration.
C'est parce qu'en fait, c'est un homme à femme. Et il a une liaison platonique, enfin, dont on ne sait rien, avec une actrice iranienne. Donc on est censé croire ça. Et 2027, parce que alors là, 2027, dans l'opération de communication, il y a effectivement, ils en ont marre de l'Élysée, parce que c'est vrai que c'est dur, toutes ces rumeurs. Donc ils en ont marre, donc ils vont partir, mais ils partiront pas. Ils partiront pas. Et ils détruisent le pays. Alors il y a des niveaux qui sont assez fascinants, avec en même temps des aveux. Par exemple, en termes d'immigration, on est quand même le seul pays où il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc, on n'a pas le droit de savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre. Là, quand même, il y avait cette visite en Afrique qui a encore été désastreuse. Mais enfin, passons. Et au détour d'une interview, Emmanuel Macron révèle quand même, enfin, pour s'en féliciter, qu'il y a 17 millions d'Africains en France. Donc, on a 67 millions de Français. Donc, il y a 17 millions d'Africains. Donc, en fait, ça veut dire que depuis 70, la population française n'a pas progressé. En fait, toute la progression française depuis les années 70, ce n'est que l'immigration. Je veux dire, il n'y a jamais eu de débat sur la politique migratoire en France. Donc il y a quand même une destruction du pays, une asphyxie totale.
Tout le monde en a tellement marre de lui que même sa propre mère rêve qu'il parte, selon les confidences d'une intervenante sur France 5.
Elle rêve la nuit que son fils démissionne.
Oui, parce que, vous savez, c'est une femme du Sud, elle a le sang chaud. Et puis, quand elle entend tout ce qui est charrié sur les réseaux sociaux et qui est pratiquement incontrôlable, elle en est malade. Elle en a un jour, elle a mis une alerte d'ailleurs sur son téléphone, elle en a parlé à son fils qui lui a dit que c'était pas la peine de démentir puisque les rumeurs enfleuraient encore plus.
Mais il y a plus grave qu'une simple baffe. Toujours selon Florian Tardif, Brigitte Macron, élue par personne, se permet de s'immiscer et de peser de tout son poids pour le recrutement ou non de conseillers de l'Élysée.
Il y a des conseillères, effectivement, ça d'ailleurs je le dis pas dans le livre, qui sont à un moment donné, tout simplement parce que c'est quelque chose de pas officiel mais officieux, qui postulent pour des postes à l'Élysée et qui à un moment donné, comme par hasard, dans le processus RH, sont reçus par
quasiment tout l'état-major. Et le dernier rendez-vous, comme cela, au détour d'une conversation, d'un café, d'un déjeuner, est en compagnie de la Première Dame. Tout simplement parce que la Première Dame, effectivement, a, entre guillemets, un droit de regard sur les personnes qui entourent le président de la République. Ça a été le cas pour plusieurs conseillères, notamment, qui ont à un moment donné, effectivement, eu accès au président de la République.
Oui, sauf que là, elle voit une photo sur le portable de Bruno Roger Petit, oui. Et elle dit, elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas à l'Élysée.
Voilà. Ouais, donc c'est jalouse. Brigitte Macron qui est misogyne.
Non, elle est jalouse.
Non,
elle est jalouse.
Ça, coup, bah, elle fait la guerre aux femmes dans l'entourage.
Non, elle se méfie.
Oui, mais elle se méfie sur des bases qui ne sont pas professionnelles.
Et puis finalement, tout ce cirque est un peu déjà écrit. Le président de l'UPR, François Asselineau, affirme que l'élection de 2027 est déjà jouée et que les principaux protagonistes sont depuis bien longtemps sélectionnés.
Qui choisit les dirigeants français? Le peuple français? Je l'ai vu de mes yeux vus. Il n'y a pas deux tours. Il y a un premier tour, c'est la présélection médiatique sur plusieurs années. D'ores et déjà, 2027 a commencé. D'ores et déjà, l'oligarchie a décidé de qui elle veut voir à l'Élysée en 2027. En un, Édouard Philippe. Si pas Édouard Philippe, en deux, Marine Le Pen. Si pas Marine Le Pen, en trois, Bardella. Et si pas Bardella, en quatre, Gabriel Attal. C'est ça qui a été décidé. Et vous avez un bombardement médiatique constant qui vous est donné sur ces personnes. Et les autres n'existent pas.
Enfin, pour terminer, je vous laisse sur un coup de gueule qui dit tout. Celui d'un Français qui aime son pays. Peut-être un peu trop. Si bien que l'État fait tout pour l'en dégoûter et le faire fuir.
Et un restaurant bureau de tabac.
Ouais, exactement.
Okay. Et je dis vous aviez.
J'avais.
Racontez-moi.
J'en ai eu marre. Trop d'heures. Trop de travail, trop de charges, trop de contrôles fiscaux, trop de contrôles d'URSSAF. Toujours en règle, j'ai jamais eu de redressement, ouais. Pas de souci. Une fois, j'étais contrôlé par l'URSSAF, ils me devaient de l'argent, ils ont mis plus d'un an pour me rembourser. 900 euros. Vous devez payer au cul du camion, comme on dit. Et puis, avec mon épouse, on s'est dit, là, je crois que c'est l'année de trop, on n'en peut plus. On paye. On a vendu. Du jour au lendemain, on a décidé de vendre.
Et à travers lui, c'est l'ensemble des entrepreneurs de ce pays qui s'expriment. Pour la plupart, leur pays parvient à les faire fuir. Mais certains décident de revenir, par amour de leur patrie. Et là encore, le sort s'acharne.
La France qui craque, c'est vous?
Ouais, comme nous tous, je pense, ce soir. Ouais, je crois qu'on fait partie de la France qui craque. Ouais. J'ai été expatrié pendant des années en Australie, hein, où on valorisait vraiment le travail. C'était vraiment nickel. Je suis rentré en France parce que mon pays me manquait. Hein. Et aujourd'hui, je pense sérieusement à le quitter. Non pas que j'aime pas mon pays, hein, attention, hein, j'adore mon pays, mais c'est devenu insurmontable. Insurmontable, c'est de la folie. On travaille, je me le suis levé pendant plus de 13 ans, de 5h30. Je rentrais chez moi à 21h30, j'ai mis ma famille, j'ai mis ma femme, mes enfants de côté, tout le monde de côté pour essayer de leur donner quelque chose. Et à la finale, on a revendu notre fonds de commerce au 1er juillet. Et là vient de tomber le couperet de la flat tax, parce qu'on est obligé de dissoudre la société. Et on me réclame 30%. Il faut que je donne à l'État 30% de ce que j'ai gagné pendant 13 ans.
C'est en centaines de milliers d'euros?
On est quasiment à 300 000 euros.
Voilà donc ces faits qui peuvent paraître anodins. De l'antivirus au Festival de Cannes, en passant par la gifle de Brigitte et la guerre des gauchistes contre Bolloré, ont en fait une utilité très claire. Masquer ce peuple qui est doucement en train de crever, enseveli sous une multitude de crises existentielles, dont l'inflation est la moins grave de toutes. Le réveil est proche, soyons patients.
Soyons patients et gardons espoir. Merci Louis Rigaudière pour votre chronique et vous dit, écoutez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous avons le grand plaisir de recevoir Xavier Van Liert ici en studio, sur place, lui-même est présent. Xavier Van Liert, bonjour. Vous vouliez aujourd'hui nous reparler, un petit peu comme la dernière fois, d'intelligence artificielle.
Absolument. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette excellente série télévisée suédoise des années 2010, si je me souviens bien, qui s'appelait 100% humain. Elle décrivait les bouleversements de toute nature entraînés par... l'usage de plus en plus massif de robots humanoïdes dotés d'intelligence dans la société. Et l'un des charmes de la série était de traiter les conséquences politiques de cette nouvelle technologie, la société se trouvant assez rapidement déchirée entre les partisans des nouvelles technologies, plutôt issus des élites politiques et économiques, et des groupes d'opposants plutôt constitués de gens ordinaires, inquiets de se voir remplacés progressivement par ces robots. La série mettait d'ailleurs en scène une sorte d'émergence de populisme anti-machine, d'ailleurs très rapidement accusé par le gouvernement dans la série et les entreprises de la tech d'être des passéistes, des réactionnaires, des xénophobes anti-robots. Or, c'est un scénario de cette nature que l'on assiste peut-être aujourd'hui, non pas en Suède, mais aux États-Unis, avec la constitution, en marge du mouvement MAGA et du Trumpisme, d'un courant explicitement hostile à l'emprise croissante des milliardaires de la tech sur la Maison-Blanche et de l'intelligence artificielle sur la société tout entière. Et ce mouvement a même, depuis quelques mois, un début d'incarnation institutionnelle avec la création d'une association baptisée Human First, les humains d'abord. Le nom est assez bien choisi car il exprime à la fois une continuité et une rupture. Une continuité parce qu'il fait référence au slogan fondateur du Trumpisme qui était, comme chacun sait, America First, l'Amérique d'abord, l'Amérique et les Américains d'abord. Et une rupture puisqu'il installe un nouveau clivage. C'est un peu, si vous voulez, comme si en France, en marge du RN, certains remplaçaient ou plutôt complétaient le slogan les Français d'abord par les humains d'abord. Mmh. Or, ce mouvement était jusqu'ici assez discret. Il se contentait de fédérer en coulisses une sorte de coalition silencieuse des inquiets. Mais il vient officiellement maintenant de sortir du bois en publiant lundi dernier une lettre ouverte au président Trump que certains, comme par exemple le site français Le Grand Continent, voient comme l'acte fondateur d'une insurrection nationale populiste contre l'intelligence artificielle. Alors formellement, cette lettre n'est qu'un appel en faveur d'une régulation de l'intelligence artificielle. Les auteurs se gardent bien de tomber dans un piège ludiste. Ils expliquent que l'intelligence artificielle va faire partie de la société, mais qu'elle mérite une forme de régulation. Ils soulignent ainsi avec un bon sens assez banal que cette technologie n'est pas anodine, qu'elle comporte des risques et qu'il est donc nécessaire de la réguler et de réaliser, par exemple, des audits avant de décider de la déployer tous azimuts. Alors, comme le dit l'un des fondateurs de Human First, l'État est capable de réguler l'ouverture de restaurants pour maîtriser d'éventuels risques sanitaires. Il devrait aussi être capable de réguler l'intelligence artificielle, qui comporte quand même des risques bien plus importants. Et ils font une analogie avec l'industrie nucléaire, qui bien sûr est régulée et fait l'objet de nombreuses règles, contrairement à l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, formellement, la lettre est pleine de déférence et même d'une flagornerie absolument déconcertante à l'égard du président Trump. Elle donne du cher président Trump, ça commence comme ça, cher président Trump. Elle loue son leadership avec un ton quasiment coréen du Nord. Oui. J'en donne quelques extraits tellement c'est drôlatique et révélateur de leurs arrière-pensées aussi. Les auteurs disent par exemple, en s'adressant donc au président américain, que sous son leadership, les États-Unis ont guidé le monde grâce à leur force et leur sagesse. Que grâce à son leadership, toujours, les Américains savent que America First, les Américains savent que America First signifie faire passer la liberté, la sécurité et la grandeur du peuple américain avant les intérêts des élites corporatistes mondialistes. C'est là que ça se corse déjà un petit peu. Et il se conclut par ces mots, à de nombreuses reprises, vous avez, président, contribué à la grandeur de la nation américaine par votre leadership, à nouveau, nous vous exhortons à en faire preuve une nouvelle fois. Alors formellement, donc, tout va bien.
Ils savent lui parler. Oui.
Ah oui, ils savent lui parler. Je pense qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire aussi. Ouais. Mais en réalité, derrière le miel de la flagornerie, on comprend qu'il y a une accusation qui est formulée en filigrane. Trump aurait, selon eux, sinon trahi, au moins délaissé le petit peuple MAGA, l'électorat initial de son aventure politique, et il l'incite donc à renouer avec son programme initial, à ne plus s'aligner sur celle des manias de la Silicon Valley. La lettre ne propose donc pas seulement de réguler l'intelligence artificielle, elle plaide aussi et peut-être surtout pour réguler l'emprise des géants de la tech sur le Parti républicain et sur la Maison-Blanche. Elle cite donc peut-être le début d'une insurrection interne au mouvement patriotique, et avec pour programme une exhortation à Trump de se libérer de l'emprise des milliardaires de la tech. La question de l'intelligence artificielle vient donc probablement cristalliser une inquiétude et un désarroi beaucoup plus important et beaucoup plus profond de la base électorale du Trumpisme, confrontée, il est vrai, à une mutation absolument sidérante de leur champion, parce qu'ils avaient voté pour un président qui promettait de s'occuper d'eux, qui ferait de l'amélioration de leurs conditions de vie sa priorité, un président qui promettait de libérer le pays des élites économiques, corporatistes, technocratiques, mondialistes, à la fois de l'emprise des grandes firmes mondialisées et de l'administration de Washington. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Un président qui fait à l'évidence absolument l'inverse de tout cela, puisque ceux qui désormais sont les plus influents autour de lui sont les milliardaires de la tech. Quant à ses priorités politiques, elles s'éloignent quand même assez largement de la Sunbelt hein, et des Américains victimes de désindustrialisation et autres joyeusetés. Et donc, dans cette tribune, il y a aussi tout cela. Et pour la décrypter et la comprendre, il faut peut-être se référer à un texte précédemment signé par une dame qui s'appelle Amy Cramer, qui n'est pas très connue ici, mais qui est connue aux États-Unis, qui est une des figures du Tea Party. Le Tea Party qui était l'une des composantes initiales de l'insurrection du petit peuple américain contre les élites, Washington, qui avait une dimension poujadiste, antifiscale. Voilà. Et donc, qui est fondatrice de Human First, une des fondatrices de Human First, et qui, elle, est très, très explicite dans un article publié par le Washington Times, il me semble, pas le Washington Post, mais le Washington Times. Et donc, dans ce texte d'une grande violence, en réalité, elle explique que le mouvement MAGA est en train d'être hacké par les patrons de la Big Tech. Là, on vient réellement explicite. Elle explique, là, je la cite, « La menace la plus insidieuse à laquelle est confronté un mouvement politique insurgé ne vient souvent pas de ses adversaires. Une menace bien plus grave émane de ceux qui cherchent à récupérer le mouvement à leur propre profit. » Elle rappelle ainsi que lors de l'émergence du Tea Party, les responsables politiques de l'establishment et les puissances d'argent ont d'abord combattu le mouvement, puis comprenant qu'ils ne pourraient pas l'arrêter, ont cherché à le récupérer afin de faire avancer leurs propres agendas corporatistes. Et vient ensuite le diagnostic et l'acte d'accusation. Nous voyons aujourd'hui la même dynamique à l'œuvre au sein du mouvement MAGA, et cela apparaît nulle part de façon plus évidente que dans le cas de la Big Tech et de la montée en puissance d'une intelligence artificielle régulée. Les deux sujets sont donc absolument conjoints. Alors on peut penser que sur le papier, le combat est perdu d'avance, que Trump préférera toujours le soutien de ses nouveaux amis milliardaires de la Silicon Valley aux signataires de cette lettre. Sur le papier, effectivement, Human First pèse bien peu face à ces mastodontes. Mais le jeu n'est peut-être pas plié car la publication de cette lettre ouverte a en fait bénéficié de soutien non pas inattendu, mais assez significatif. On trouve parmi les signataires non seulement d'anciens dirigeants du Tea Party qui représentent réellement une sociologie importante et une sensibilité politique importante aux États-Unis, donc d'anciens leaders du Tea Party, mais aussi Steve Bannon, l'idéologue initial du Trumpisme et du mouvement MAGA. Et là, c'est peut-être encore plus grave, plus inquiétant pour la Maison Blanche, de nombreux pasteurs extrêmement influents et qui considère également qu'il y a un danger dans l'évolution du Trumpisme et l'emprise de l'intelligence artificielle sur la société. Autre facteur probablement à prendre en compte, c'est que selon différents sondages, l'Amérique est confrontée quand même à bien davantage aujourd'hui que les Français à l'essor de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous, on peut l'utiliser de la même manière que les Américains, mais aux États-Unis, il commence à y avoir, par exemple, des débats sur l'ouverture ou non dans telle ou telle région de data centers qui impliquent des arbitrages absolument épouvantables, notamment aux dépens d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'un data center, c'est quelque chose qui consomme énormément d'eau et d'énergie, et on constate aussi que le simple fait que les États-Unis soient une des nations phares dans l'installation de l'intelligence artificielle, eh bien, induit une hausse des coûts de l'énergie. Donc, ce sur quoi misent les signataires de la lettre, c'est probablement le principal enseignement en tiré au-delà des jeux politiques américains, c'est que l'intelligence artificielle et son déploiement vont devenir, inévitablement, à terme, un sujet politique et pas seulement faire l'objet de débats politiques et pas seulement de débats sur qui est le meilleur entre Claude AI, ChatGPT, Mistral, et que donc ça va quitter le simple domaine de la technologie ou du joujou technologique pour devenir un enjeu politique majeur. Et donc en réalité, ils prennent date et on peut probablement se dire qu'il serait nécessaire en France aussi de commencer à se pencher sur ces questions de façon politique, car ce sera ici aussi évidemment inéluctable.
Il y a un auditeur qui faisait une remarque que je trouve très intéressante, c'est effectivement que ce ne sont pas les rednecks ou les membres de la Rust Belt qui vont financer les campagnes de Trump ou le mouvement MAGA.
Donc les coups rouges et la ceinture de rouille, hein, de...
Oui, pardon.
Oui, oui, c'est vrai, bien entendu, mais l'inquiétude est quand même palpable. Il y a aux États-Unis des élections partielles régulièrement, et ça se passe pas toujours très très bien quand même pour le Parti républicain, mais un autre phénomène assez patent, c'est que une sorte de syndicat non pas occulte mais non non institutionnalisé des géants de la tech ont décidé de couvrir d'or tous les candidats qui s'engageraient à ne pas réguler l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même voilà, ils prennent en compte quand même un potentiel danger. Les États-Unis restent une démocratie, si vous voulez. Certes, ça donne un atout d'avoir beaucoup d'argent, mais si le prix à payer pour avoir beaucoup d'argent, c'est de se couper de sa base, le coup peut être très rude. Donald Trump, lors de son premier mandat, a gagné avec, en étant moins doté que, beaucoup moins doté que les démocrates, et il avait en face de lui l'ensemble de ceux qui sont devenus ses nouveaux amis. Il a gagné contre ces gens-là déjà une première fois. Contre Elon Musk aussi,
il
notamment.
Il a gagné grâce, grâce aux pauvres.
Et grâce aux pauvres, absolument. Mmh.
Je voudrais, par rapport à tout ce que vous avez dit, il y a deux points. Dans un point que le grand continent avait relevé lui-même, c'est-à-dire que Léon XIV aussi est une force spirituelle, mais aussi politique à cause de l'audience qu'il a dans les catholiques. Et Léon XIV a l'air de considérer que l'intelligence artificielle n'est pas le remède universel à tous les maux de la modernité, et qu'au contraire, cette intelligence artificielle recèle des dangers et on sent que l'Église catholique est en train de s'engager vers une véritable régulation de l'intelligence artificielle, non pas par technophobie. L'Église catholique a toujours été en fait plutôt technophile, mais justement parce que, connaissant bien la technologie, elle en mesure les dangers. Et ça, ça fait partie aussi de cette dimension religieuse des États-Unis, avec un électorat catholique important qui risque de, voilà, là aussi, de faire pièce au projet de la Silicon Valley. Et par ailleurs, c'est ce que vous avez dit à la fin, dire qu'est-ce qui se passe en France et en Europe. Ben, ce qu'il se passe, c'est qu'on est incapable, pour le moment, de prendre la mesure de cette révolution technologique américaine, ou plutôt on refuse de faire naître une solution européenne et française. Ce n'est pas les quelques dizaines de millions que Macron prétend investir qui est important, c'est plutôt le fait, par exemple, qu'on est en train d'expliquer que pour les data centers, attention, il ne faudra pas d'énergie nucléaire, mais d'énergie verte. Autrement dit, l'Europe est en train, une fois de plus, de faire en sorte que la France ne puisse pas avoir son intelligence artificielle. La France a le plus bel outil nucléaire au monde qui soit. C'est elle qui est parfaitement capable de faire en sorte que les data centers, donc les centres de données, soient alimentés en électricité. Une électricité qui ne coûtera rien, une électricité qui sera verte. Mais là aussi, on voit que l'Union européenne est prête à empêcher les Français de réussir ce qu'ils avaient déjà réussi avant avec le plan calcul notamment, c'est-à-dire devenir une puissance informatique. Et là, pourquoi la France ne se rebelle-t-elle pas? Et ben, parce qu'elle est inféodée à l'Union européenne, évidemment.
Oui,
c'est super votre question-réponse.
Oui,
c'était pas une.
J'ai beaucoup aimé la conclusion qui était une question et qui se terminait par la réponse.
Êtes-vous d'accord avec moi, Xavier Mandier?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic général. D'abord, pour aller dans votre sens, effectivement, l'Église catholique s'empare de ce sujet puisque, je crois, lundi prochain, donc une encyclique consacrée à l'intelligence artificielle sera publiée après avoir été signée il y a déjà quelques jours par le pape Léon XIV, et son titre est « Magnifique humanité ». Voilà. Donc effectivement, ça a des résonances avec cette idée de « les humains d'abord ». Et je suis très impatient de la lire, et donc voilà, ça va jouer certainement aussi dans l'équation. En tout cas, on ne pourra pas continuer à faire comme si cet outil qui crée des changements de paradigme dans tous les aspects de nos vies ne devait pas être l'objet d'une attention à la fois politique, morale, de toute nature, puisque cet objet change tout. Eh bien, s'il change tout, il faut réussir à l'observer selon une multitude de points de vue et d'angles. Alors maintenant, sur cette histoire de data center et de l'absence de la France et de l'Europe sur ces questions-là, oui, c'est sûr que les problèmes américains qui consistent à une multitude de rapports de force pour savoir comment réguler cet outil, ce sont des problèmes de riches en quelque sorte, puisque ça prouve qu'ils ont ces outils, et que bien évidemment il vaut mieux en disposer que de ne pas en disposer ou d'être complètement à la traîne, ce qui est malheureusement le cas de la France et de notre continent tout entier. Est-ce que c'est dû à l'Union Européenne? Bon, je pense pas que l'Union Européenne aide, mais je pense qu'on se débrouille très très bien pour foirer tout aussi, tout seul.
Et il y a une question qui me vient évidemment, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la même révolution que l'arrivée d'Internet finalement il y a 25 ans maintenant? C'est-à-dire que d'une...
On va pas résoudre cette question tout
non,
de suite.
Non, non, mais c'est certain, mais dans le sens où, quelque part, je n'étais pas là quand Internet est arrivé, vous, oui, vous étiez déjà des penseurs chevronnés. En réalité, est-ce que à cette époque, on avait...
Tu louer notre leadership aussi, s'il te plaît?
Oui, aussi, je peux, ça peut jouer. Non, non, mais effectivement, est-ce que déjà à cette époque se posaient les mêmes questions? Est-ce qu'on voyait déjà les mêmes courants quelque part technosceptique? Est-ce qu'on pensait déjà à voir Internet comme un outil quelque part politique, ce que c'est devenu finalement sur ces dernières années? Est-ce qu'il y a une comparaison qui est faisable?
Non, dans mon souvenir, non, pas du tout. Internet suscitait plutôt énormément d'enthousiasme, et les critiques, le discours critique à l'égard d'Internet est plutôt né récemment avec les réseaux sociaux et la prise de conscience par un certain establishment qu'il n'avait plus le monopole. Le monopole de la parole. Mais sinon, aux origines, si je me souviens bien, on était plutôt dans une forme d'enthousiasme.
Dans l'exaltation de ce que permettait Internet, effectivement, la connexion de tout à tout, et ça, c'était épatant. Cela dit, il y a toujours eu, y compris au moment du plan calcul, et donc la naissance de l'informatique, de la cybernétique, de la robotique, cette question de la neutralité de la technologie, et les meilleurs penseurs ont toujours expliqué que aucune technologie n'était neutre et que le progrès technique par principe comporte des dangers de révolution sociale. Et donc malgré tout, oui, au début de l'ère Internet, il y a tout de suite eu des penseurs qui ont expliqué que le fait de basculer dans le virtuel, le fait de basculer dans la connexion permanente était source de danger. Il y a un film de René Barjavel qui est ressorti il n'y a pas longtemps, sur les réseaux, où il montre des gens qui ont un téléphone dans la main. Je parle d'un film des années 40-50. et les gens marchent notamment devant l'église Saint-Sulpice, à côté de cette magnifique fontaine. Et chacun est à l'œil fixé sur son petit écran de télévision personnel. Et donc, on a toujours eu, en fait, une crainte que la technologie refaçonne totalement la société, et à juste titre.
Bien sûr. Pour poursuivre sur cette question, lors de l'éruption d'Internet, il y avait bien sûr des penseurs et d'autres qui manifestaient une certaine inquiétude ou qui analysaient, qui voulaient...
Même sur, par exemple, la destruction d'emplois ou sur ces sujets-là.
Oui, mais très peu. Ça s'est très peu cristallisé politiquement. C'est ça que je voulais dire. Alors que je pense que par son ampleur et sa nature quand même différente, l'intelligence artificielle va nécessairement devenir un problème politique qui va cristalliser et réorganiser le champ politique. Internet, il n'y avait pas tel ou tel parti qui se positionnait sur Internet. C'était pas de cet ordre-là.
Internet, on crée en fait une industrie de services. Et on n'avait pas l'impression que les usines allaient disparaître, en partie parce qu'on a refusé de prendre le tournant de la robotisation. Voilà, en tout cas en Europe. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle plus la robotisation, on voit bien que non seulement l'intelligence artificielle supprime le secteur tertiaire, mais qu'en plus, elle est en train de phagocyter le secondaire. Mmh. Donc on se retrouve avec une évolution conjointe de plusieurs technologies qui, avec l'intelligence artificielle, réussit à grand remplacer l'intégralité de l'humanité dans tout ce qui aujourd'hui constitue une société moderne, c'est-à-dire un accès au travail qui permet d'avoir un salaire, qui permet d'acheter les biens avec lesquels on peut subsister, puisque dorénavant l'humanité, dans son immense majorité, est incapable de produire sa propre subsistance.
Mais exactement, une des fondatrices de ce groupe, Les Humains d'abord, explique très très bien que la question qui va se jouer autour de l'intelligence artificielle et du travail, au-delà des moyens de subsistance, sera la question de la dignité. Ouais. Et il rappelle à très juste titre que l'un des ressorts de l'insurrection initiale, de l'insurrection trumpienne, était le petit prolétariat blanc en quête de retrouver non seulement du pouvoir politique, mais en conquérant ce pouvoir politique et à travers la figure de Trump, de retrouver une forme de dignité, de sens de sa propre dignité et exiger de la considération. Ces questions-là restent ouvertes et reposées à nouveau.
Sur la question, justement, pour revenir un petit peu à ce mouvement Human First, est-ce qu'on peut le lier d'une certaine façon, moi je ne le connais pas, mais de ce que vous avez pu en voir, à peut-être un courant écologiste? Est-ce que c'est un courant qui est finalement l'opposé des libertariens, en fait, d'une certaine façon?
Non, pas du tout. Vous savez, aux États-Unis, c'est toujours assez complexe parce que il y a à la fois dans ce mouvement des gens qui se réclament aussi du courant libertarien pour deux raisons. La première, c'est qu'ils voient quand même assez clairement le fait que toutes ces infrastructures numériques peuvent déboucher sur un univers assez dystopique et de surveillance générale. Et donc c'est aussi au nom de la protection des libertés individuelles qu'ils veulent réguler ces géants. Et le second argument à coloration libertarienne dans ce mouvement, c'est l'idée que ces sociétés-là sont issues d'un capitalisme de connivence, fonctionnent à coup de commandes publiques, ce qui est exactement vrai, d'exemptions de règles qui s'abattent par contre sur d'autres secteurs de l'économie, et que tout ça sont des copains et des coquins.
Le capitalisme contre le libéralisme,
et que donc ils y voient à nouveau quelque chose qui est de l'ordre de Washington qui régit et se gave, tandis que les petits entrepreneurs, eux, continuent à être brimés et bridés.
Il y a la reconstitution d'une oligarchie par cela même, et je pense à Elon Musk, qui expliquait qu'au contraire, il fallait détruire les grands monopoles technologiques parce qu'ils étaient un frein à l'innovation. Donc ceux qui ont expliqué à quel point le monopole était un souci, sont en train de reconstituer un oligopole, et un oligopole, évidemment, où, comme d'habitude, les plutocrates sont main dans la main avec les technocrates, donc contre le peuple. Par ailleurs, on voit bien dans le discours du président d'OpenAI qu'on se retrouve avec, ou le discours du président de NVIDIA, des gens qui expliquent qu'il faut 600 milliards d'investissements pour les infrastructures énergétiques et que le vrai problème de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout son danger social, c'est plutôt que l'intégralité de l'industrie doit être mise au service de cette magnifique puissance.
Absolument.
On voit bien la captation absolue de tous les investissements publics au nom, bien sûr, d'un bien commun produit par l'IA.
Absolument. Mais c'est oui, dans le texte fondateur de Human First que voilà, nos auditeurs peuvent aller retrouver sur Internet. Il y a très explicitement cette citation expliquant que l'intelligence artificielle est le fruit d'investissements de tous les Américains, notamment d'investissements publics, que l'intelligence artificielle est d'abord le fruit d'une intelligence collective qui est celle des centres de recherche et même de l'histoire américaine, et que donc ça doit être un bien public, et que ça justifie donc bien sûr non seulement sa régulation, mais aussi de nouveaux arbitrages quant aux bénéfices que l'on peut en retirer.
Oui.
Et c'est bien évidemment sur l'un de ces points que cela achoppe, et que ça choque beaucoup ces patrons qui ont quand même, enfin, pas très partageurs quand même dans l'ensemble.
Non, pas très partageur. Et on voit une fois de plus que J.D. Vance, qu'on nous avait présenté comme étant le contrepoint MAGA à Trump, la manière intelligente d'être Trumpiste sans tomber dans les outrances de Trump, va se retrouver, pour le dire vulgairement, le cul entre deux chaises. Parce que catholique d'un côté, avec ce que dit Léon XIV, mais de l'autre côté, financé par Peter Thiel, autrement dit par les grands technolords de la Silicon Valley, il va être obligé de choisir son propre camp. Et je pense que la motion de synthèse ne va pas être facile.
On a l'impression qu'il a déjà un petit peu choisi son camp, d'une certaine façon.
Encore espérer.
Ah oui, mais vous avez bien raison. Mais effectivement, alors je voudrais peut-être conclure, il nous reste 1 minute 30 par... des commentaires des auditeurs. Un qui dit que effectivement la robotique a remplacé les ouvriers à l'époque, c'était une avancée formidable. L'IA menace les intellectuels et ça devient un danger pour eux, donc chacun son tour. Ce qui d'une certaine façon fait écho d'ailleurs au dernier entretien que Peter Thiel donne dans le magazine L'Incorrect, où il explique justement que ça y est, il est temps que la cathédrale soit abattue et que la meilleure chose qui pourrait arriver pour les intellectuels, c'est finalement, sans, d'ailleurs comme lui, serait sans doute de perdre le pouvoir, ce qui est assez amusant. C'est-à-dire que d'une certaine façon, en fait, c'est désormais la machine qui doit remplacer l'intellectuel et qui doit se substituer à la pensée. Et enfin, deux derniers commentaires que je trouve assez bien dans la ligne du communiqué Human First que vous avez décrit, Xavier Van Lierde. Le premier, bravo Richard de Cesse qui apporte toujours des éclairages judicieux. Donc voilà. Et le deuxième,
merci chérie.
Et le deuxième, Xavier Van Lierde maîtrise à chaque fois ses sujets. Vive les intelligences non artificielles et merci à Ligne Droite de cette qualité du débat. Voilà. Et
ben écoutez, vive les humains.
Voilà, exactement. Vive les humains, vive nous. Et merci beaucoup Xavier Van Lierde pour cette analyse.
Merci à vous.
Nos émissions. Vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et pour suivre la ligne droite, nous suivons avec Éric Doutrebente que nous retrouvons. Bonjour Éric Doutrebente, vous revenez pour votre chronique hebdomadaire. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Tiepolo, société de gestion de portefeuille indépendante gérant des clients privés. Alors, nous sommes sur les dernières semaines avant la clôture des déclarations d'impôts pour certains auditeurs qui en restent peu de jours pour d'autres selon le département selon lequel vous vivez. Est-ce que vous pourriez nous faire un point précis sur les dons concernant l'impôt sur le revenu et pourquoi il faut les donner à Radio Courtoisie ?
Alors bonjour à tous. D'abord, il n'y a point de plus belle acquisition que le don. Il n'y a pas de bien plus agréablement acquis que celui qui est donné. Ce qui est donné, donc un don, c'est un cadeau. Faire un don, c'est aussi une offrande. Un don, c'est aussi un bienfait. Un don, ça peut être un bienfait de la nature. Et donc, c'est aussi une aptitude à avoir des talents. Donc, tout ça pour recadrer le don dans des choses essentielles pour en venir maintenant aux aspects fiscaux. Donc, vous avez des dispositifs concernant les dons, concernant l'IR. Vous pouvez donner de l'argent à des organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique. Là, vous êtes à 66% des sommes versées dans la limite de dons représentant 20% du revenu imposable. Pour être concret, vous prenez votre avis d'imposition du mois de septembre, si vous n'avez pas encore calculé celui de cette année, vous êtes obligé de le faire. Et là, vous avez par exemple un revenu imposable de 30 000 euros. Vous avez un impôt, tout ça est fictif en termes de montant, je vous donne tout simplement le mécanisme. Donc, mettons que vous ayez un impôt de 3 000 euros. Si vous avez un impôt sur le revenu de 3 000 euros, eh bien, si vous donnez 4 500 euros de don, donc ça fait 66%, ça fait 3 000, eh bien, vous ne paierez pas d'impôt, vous l'aurez donné à une bonne œuvre. Donc, c'est important de voir ce mécanisme. Évidemment, il y a des gens pour vous aider pour cela, à comprendre et surtout à mettre en place les choses. Après, vous avez des dons que pourront faire sur des organismes d'aide à personnes en difficulté. Donc là, c'est limité à 1 000 euros, mais la déduction, c'est 75% des sommes versées et non 66%. Et ensuite, vous avez aussi des possibilités quand vous avez... Excusez-moi, j'ai un petit souci. Vous avez deux dons un peu exceptionnels, les dons à la Fondation du patrimoine, parce que là, c'est encore 75% de réduction. Et puis, vous avez les dons effectués depuis 2026 concernant la restauration du château de Chambord. Évidemment, vous pouvez donner, quand vous donnez un don sur l'IR, vous pouvez donner des titres en plus-value. Donc là aussi, il faut être aidé. Si vous avez des titres en plus-value, au lieu de donner de l'argent et de faire un virement, donnez des titres et vous aurez, évidemment, vous éviterez d'avoir l'impôt sur la plus-value, puisque de vendre les titres pour donner de l'argent, vous donnez directement les titres. Ça demande un peu de back-office, mais des structures comme les gérants de portefeuille, comme votre serviteur, on est tout à fait à aider les gens dans ce secteur, dans cette partie-là.
Et alors, qu'en est-il ? Il nous reste deux minutes seulement, Éric Doutrebente, on va devoir aller vite, mais qu'en est-il des dons IFI et que peuvent donner les entreprises aussi ?
Alors, les dons IFI, ça, il faut le donner avant, si vous avez votre déclaration d'impôt le 4 juin, il faut que vous fassiez votre don avant le 4 juin, faites votre calcul d'IFI, et là, on a une réduction de 75%. Alors, je prends les choses au maximum, si vous avez 50 000 euros d'IFI, ce qui est énorme, eh bien, si vous donnez 66 666 euros,
vous ne paierez pas d'impôt sur l'IFI. Il y a toujours les gens qui disent il faut toujours payer un petit peu d'IFI ou un peu d'IR. Pas du tout, vous pouvez très bien réduire votre impôt à zéro. Il suffit de le donner à des œuvres qui sont habilitées à cela. Je rappelle que concernant l'IR, il y a beaucoup d'associations qui peuvent le recevoir. Concernant l'IFI, c'est réduit à certaines associations, des fondations, des fonds de dotation, des fondations et des gens qui sont habilités à cela. Et évidemment, on ne peut pas donner de titre concernant l'IFI, puisque si vous les donnez, vous payez l'impôt sur la plus-value. Donc, aucun intérêt de donner des titres pour l'IFI. Et après, concernant les entreprises, eh bien, vous avez le montant du don. Vous pouvez donner jusqu'à 20 000 euros, c'est un plafond, ou 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe. Ça arrive sur l'impôt sur les sociétés, et donc le taux de réduction est de 60%. Donc vous voyez qu'il y a des moyens de réduire votre fiscalité et d'aider des bonnes œuvres, que ce soit Radio Courtoisie avec son fonds de dotation, ou toutes les œuvres d'éducation, des œuvres culturelles, des œuvres concernant aussi le patrimoine. Donc il y a de quoi faire, mais renseignez-vous et optimisez.
Merci beaucoup Éric Doutrebande d'avoir été avec nous ce matin, et j'en profite pour dire que tant qu'à faire des dons, faites-les à Radio Courtoisie. J'en profite un petit peu pour faire ma promotion après la vôtre, Éric Doutrebande, mais voilà, sur soutenir.rc.fr,
voilà, pardon, vous pouvez prendre ma place, ça y est.
Vos mails, vos chèques, je vais y arriver, à Radio Courtoisie au 61 boulevard Murat, je vais y arriver, 75 016 Paris, voilà, et puis également dans le chat sur YouTube si jamais vous y êtes présent. Merci Éric Doutrebande et à la semaine prochaine.
Et à bientôt, et surtout juste avant la Pentecôte, recevez les 7 noms du Saint-Esprit, vous aurez tout ça au centuple là-haut.
Et ben voilà, ça me paraît un excellent investissement.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et Gilles Brochard n'est pas en studio aujourd'hui, c'est un grand mal qui nous afflige, mais enfin nous allons essayer de faire sans. Gilles, vous êtes tout de même là par téléphone, et oui, à la une de Valeurs Actuelles ce matin, l'abandon du Liban.
Oui, bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs. Alors c'est une histoire qui remonte à la nuit des temps, quand les rois français se voulaient les protecteurs au sein de la sphère d'influence de l'Empire ottoman des catholiques d'Orient, écrit Hugues de Haldeny dans son éditorial. C'est une histoire qui se poursuit au XIXe siècle, après les massacres des Maronites du Mont-Liban, quand Napoléon III dépêche l'armée française pour préserver ce que la France estimait être l'un de ses avant-postes spirituels. Ainsi, Hugues de Haldeny revient sur les relations entre la France et le Liban, jusqu'à évoquer l'attentat du Drakkar en 93, qui lui aura endeuillé l'armée française pour toujours. Et aujourd'hui encore, ajoute-t-il, ce pays si précieux ressemble de plus en plus à un champ de ruines. Et puis, vous lirez le long article de Myriadec Raffray qui tente d'y voir clair dans un Liban assassiné jour après jour. Jérusalem poursuit sa guerre destructrice et inopérante, écrit-il, et la France, en perte de vitesse, hésite à abandonner les derniers chrétiens libres du Proche-Orient. Nous n'abandonnerons pas le Liban, martèle-t-on à l'Élysée, où l'on travaille à bâtir une coalition avec les Britanniques, les Espagnols et les Italiens, avec un mandat robuste pour prendre la suite de la Finule. La France a été évincée des négociations de paix par Israël, poursuit encore Myriadec Raffray, avec qui les contacts sont limités au strict minimum, et par les États-Unis pour la punir de ses critiques de la stratégie de Trump au Moyen-Orient. Mais Emmanuel Macron espère toujours revenir dans le jeu libanais à la faveur d'une hypothétique accord de paix plus fort qu'aujourd'hui. Contre l'avis du Quai d'Orsay et même de l'état-major des armées, où l'on hésite entre l'attentisme et le repli. Voilà, on lira aussi le reportage toujours dans Valeurs Actuelles de Nathalie Duplan, intitulé « Le calvaire des chrétiens du Sud-Liban », car cette région n'est pas peuplée que de chiites. Il compte plusieurs villages chrétiens ou mixtes qui sont les otages d'une guerre qui n'est pas la leur et qui tentent de résister au péril de leur vie.
À la veille de la publication du rapport de l'INED sur l'immigration, le Figaro consacre sa une à la hausse constante de l'arrivée de plus en plus forte d'étrangers sur notre sol.
Oui, c'est un peu le fait du jour. Hein. Dans son éditorial, en première page, Israël écrit qu'il convient de sonner l'alerte. L'immigration de travail pèse peu face aux immigrations clandestines, familiales et estudiantines. Jamais la France n'a connu, comme ces 30 dernières années, une pareille pression migratoire sur ces trois fronts. Et jamais non plus, celle-ci n'a été aussi divergente culturellement et religieusement. À 50% d'origine africaine, elle n'a rien à voir avec les vagues polonaises, italiennes ou espagnoles enregistrées jadis. notre pays est en train de vivre un changement démographique radical dont on n'a pas fini de mesurer l'ampleur ni les conséquences. Alors on le sait, la démographie dicte le destin de l'histoire, affirmait Samuel Huntington. Les mouvements de population en sont le moteur. Mais si Gérald Darmanin estimait il y a 4 ans entre 600 000 et 900 000 le nombre d'étrangers présents irrégulièrement sur le territoire national, on peut penser que le vrai chiffre dépasse le million aujourd'hui. Alors en 2023, 2024 et 2025, écrit Jean-Marc Leclerc, les seuls déboutés du droit d'asile qui échappent très majoritairement à toute forme d'expulsion, donc c'est à peu près moins 10% effectivement éloignés, étaient plus de 200 000 hommes et femmes. Donc il faut y ajouter les clandestins qui ne se signalent jamais aux autorités, préférant rester dans l'ombre plutôt que de réclamer un statut de protection internationale. Je vous donne un autre chiffre, c'est 4,5 millions de titres de séjour en cours de validité qui ont été délivrés au 31 décembre 25, soit une hausse de plus de 3% en un an, et c'est du jamais vu. Elle est portée par les cartes de résidents longue durée attribuées, mais aussi les titres pluriannuels. Ainsi, un titre sur trois désormais a été délivré pour motif familial, soit environ 1,5 million de titres, et 1 sur 5 par renouvellement du plein droit, ce qui fait 900 000 titres de plus. Bref, les titres délivrés pour motif humanitaire ont quant à eux dépassé le seuil des 700 000, donc c'est un stock particulièrement significatif. Voilà, ce grand dossier est à lire dans le Figaro.
On ouvre une page culture, on apprend que Jean-Louis Aubert, le chanteur du groupe Téléphone, donnera le 25 mai prochain un concert solidaire pour sauver le toit de l'église de son village.
Oui, alors c'est à Saint-André, Ville-sur-Ozon, exactement dans le Vaucluse, où l'ancien scout et enfant de cœur veut absolument sauver une église, l'église de son enfance, du village de son enfance, où il est revenu. Alors je l'ai lu sur le site Boulevard Voltaire, qui tient aussi cette information du journal Ici Vaucluse. 1000 places à 40 euros avaient été mises en vente jeudi dernier, dès 8 heures, et elles ont toutes été écoulées en quelques minutes. Alors voici les faits, l'édifice est trop dangereux et a dû fermer. Il faut refaire les vitraux, la toiture, les façades intérieures. Les travaux sont estimés à 1,4 million d'euros, rapportait ainsi le média local, qui ajoutait que les demandes de subventions ont été faites auprès de l'État, mais aussi de la région, mais de leur côté, les habitants se sont tout de suite mobilisés à travers une association accompagnée par la Fondation du patrimoine. Et les habitants s'étant mobilisés, ils ont quand même récolté 8000 euros. Mmh. Et pour maximiser les fonds récoltés, une cuvée solidaire Jean-Louis Aubert d'AOP Ventoux Rouge, créée en soutien à la réfection de l'église de Ville-sur-Ozon, a été mise en vente le 8 mai dernier. Donc lisez cette intéressante enquête sur le site Boulevard Voltaire.
Et enfin, à Cannes est présenté aujourd'hui le premier des deux films sur le général de Gaulle, signé Antonin Baudry.
Oui, alors je vous invite à lire l'entretien qu'a donné Simon Abkarian, 64 ans, celui qui incarne le général dans la bataille de Gaulle, L'âge de fer. C'est le premier volume qui sera dans toutes les salles le 3 juin. Le second sera diffusé le début juillet. Alors il raconte que ses camarades d'école, quand il avait 9 ans et qu'il avait quitté la France pour le Liban, l'appelait De Gaulle, parce que c'était le Français le plus connu et surtout celui qui avait redonné son honneur à la France. Et Simon Abkarian évoque le rôle du général à la radio. C'est pourquoi il raconte qu'il a enregistré ses discours, tous les discours radiophoniques. Je ne voulais pas tomber dans la caricature, mais m'approcher de son phrasé et de son lyrisme, de ses césures improbables et de ses inflexions sur certains mots. Sa parole est pointue, incisive, claire. Sa force, c'est son érudition et le fait qu'il est habité par ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours à la radio, à lire dans Le Parisien. Et puis, cher Alexandre, dans votre panoplie de dandy rive gauche, est-ce que vous êtes adepte des mocassins?
Pas du tout, je vous avoue, je suis très anti-mocassin.
Vous êtes plutôt Richelieu avec des lacets.
Ouais, exactement.
Alors, Hélène Guillaume, dans Le Figaro, consacre une page aux 80 ans du mocassin le plus emblématique de la création française, Weston. Mmh. Celui qu'on appelle le 180 ne s'est jamais aussi bien porté, réhabilité par son design moderniste et l'air du temps qui aime à nouveau les classiques fidèles et authentiques. Olivier Saillard, qui y est pour quelque chose, c'est le directeur artistique. Je précise qu'il s'agit du directeur donc artistique de la maison Weston, installé à Limoges, et les ventes de mocassins ont augmenté, tenez-vous bien, de 25% ces dernières années. Je précise que la paire coûte quand même 780 euros. Moi, ouais. Je ne porte que des mocassins père et fils et ça coûte quand même moins cher.
On devrait l'appeler le 780 du coup, pas le 180.
Allez, on va passer en zone libre très vite.
Zone libre.
2 minutes 32 zones libres et évidemment Magda Dodefeuil qui apporte toujours les exclus, toujours les informations dont on a besoin finalement pour parce qu'on fait beaucoup de commentaires, c'est vrai, beaucoup d'analyses, mais il faut aussi de l'info brute, de l'info pure, et elle nous vient de Magda Dodefeuil qui a donc une information cruciale.
Oui, c'est une information exactement, c'est une information cruciale, puisque si vous êtes un habitant de Saint-Vincent de Conezac, vous connaissez sûrement c'est en Dordogne.
Tout le monde connaît
Saint-Vincent de Conezac.
C'est ridicule ce que vous dites.
Il y a deux habitants, Véronique et Damien, qui ont vu au fur et à mesure des jours leurs boules de pétanque disparaître les unes après les autres. Alors, c'est un kleptomane de fanatique de pétanque, on ne sait pas. Et c'est quand même un gros butin, puisqu'après avoir perdu 19 boules, soit près de 900 euros quand même.
Aye.
900 euros de préjudice. Ils ont décidé d'installer des caméras pour savoir qui étaient les voleurs, qui étaient ces kleptomanes au fin fond de la Dordogne.
Aye.
Et ils ont
qui en veut aux boulistes, je me demande.
Exactement. Qui en veut, parce qu'en fait, on les aime beaucoup. Et ils ont été surpris, puisqu'ils ont découvert le coupable, et c'était un renard.
Un petit renard passionné
de pétanque.
Toujours se méfier.
Exactement. Qui a emporté les boules une par une, qui les a gardées dans son terrier. Ouais.
C'est une belle histoire. C'est toujours compliqué parce que c'est le genre de belle histoire qu'on aimerait entendre plus souvent. Et d'un autre côté, évidemment, qu'on plaint les habitants de
Saint-Vincent de Conezac.
Oui, de Saint-Vincent de Conezac, le mot échappait.
Et surtout, on savait que le renard était un mangeur ou un voleur de poules, mais pas de boules.
Vous rattrapez très bien, Franck. C'est génial ce que vous faites.
Mais non, et puis cette anecdote, elle me rappelle les bijoux de la Castafiore.
Exactement,
parce que la c'est un abat de Tintin, et d'ailleurs
on croyait que c'était les gitans, et en fait non, c'était la fille voleuse.
D'ailleurs, question pour Gilles, s'il est encore avec nous, quelle est la particularité de l'album Les bijoux de la Castafiore de Tintin parmi tous les autres?
Je sais, moi.
J'ai pas.
Oh là là, pourtant je le connais cet album. Écoutez, je donne ma langue au chat là.
C'est le seul qui se passe à Moulinsart.
Non, c'est le seul où il n'y a pas de méchant. En soi.
Il y a le chant de la Castafiore, par contre.
Mais en tout cas, c'est une pie qui volait les bijoux de la Castafiore.
Oui.
Et en l'occurrence, il n'y a pas de Rastapopoulos ou autre personnage. Non.
Mais c'est aussi, je crois, le seul où il reste à Moulinsart. Oui, mais Franck, vous aviez une information brillante à nous donner.
Il reste 20 secondes, c'est important. Est-ce que vous aimez les costumes de l'Opéra de Paris?
Oui.
Parce que l'Opéra de Paris met en vente plus de 5000 costumes là, les 3 prochains jours, à partir entre 2 et 800 euros. Donc vous pouvez vous déguiser en ce que vous voulez. Voilà.
Vous en avez déjà pris un aujourd'hui,
Franck? Oui, c'est ce que je porte exactement. Vous m'avez reconnu. Oui. 2 euros le costume, j'ai pas résisté.
C'est très burlesque.
C'est les 29, 30 et 31 mai. Ça coûte 10 euros l'entrée, mais vous pouvez voir une collection fabuleuse avec des costumes qui sont empruntés aux pièces, par exemple d'Eugène Onéguine, les Capulet, les Montaigu, et j'en passe, et bien d'autres. Donc Sanson et Dalila et tout ce que vous voulez.
Une émission en exclusivité.
Oui, absolument. Peut-être. Écoutez, on invitera le renard pour en parler.
<C'est ça. rire> Vous me mettez les boules. Enfin, je ne sais plus.
Merci à tous. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. La matinale qu'on finit dans le rire, dans la joie, dans le bonheur. Et pour que nous augmentions notre rire, notre joie, notre bonheur, donnez-nous plein d'argent.
Oui, pour faire rire à Alexandre, c'est 5 euros que vous pouvez déposer sur soutenir.rc.fr. 10, ça le fait vraiment franchement rire.
Oui.
50, alors là, c'est...
Je suis par terre, on ne bouffe plus à l'antenne.
Plus sérieusement, soutenir.rc.fr pour permettre à Radio Courtoisie de poursuivre sa lancée pendant 40 années encore. Soutenir.rc.fr, merci d'avance.
Voilà, et puis écoutez, chers auditeurs, tout de suite, on va écouter Michel Hamas qui va nous parler du périscolaire parisien, parce que c'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Je vous remercie quand même de certains commentaires que j'ai lus dans le chat sur YouTube qui sont particulièrement gentil, aimable et agréable. Ça fait toujours plaisir d'entendre un petit peu, de lire un petit peu de positif. Mais je vous laisse avec le Debout les Français.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler, chers auditeurs, du périscolaire parisien. Les scandales s'enchaînent et d'un autre côté, Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, essaye de rassurer, essaye de dire finalement, de renouer une forme de confiance entre le périscolaire et les parents qui sont désormais, à juste titre, particulièrement inquiets de la situation. Nous allons parler de ce sujet avec Michel Hamas. Michel Hamas, bonjour, vous êtes avocat au bonjour. Barreau de Marseille. Est-ce que vous êtes bien avec nous?
Ah oui, je suis là et bonjour.
Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est revenir rapidement sur les faits. Donc, En 2026, on en est à 78 animateurs suspendus dans le palais scolaire à Paris, 31 pour des suspicions de violences sexuelles. Il y a eu des enquêtes qui ont été ouvertes sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles élémentaires, une dizaine de crèches. Aujourd'hui, effectivement, c'est une situation qui est de plus en plus inquiétante. Comment ça se fait que, en réalité, on retrouve autant d'animateurs périscolaires qui soient dans ce genre de situation? Et puis, question suivante, comment ça se fait que finalement, ces animateurs, parfois, ont déjà été condamnés?
Alors, le problème n'est pas un problème lié à Paris. Là, on en parle parce que c'est Paris, que Paris, c'est la capitale, donc forcément une nouvelle élection, le maire qui essaie, le sujet est en... Mais c'est un sujet qui est partout, dans tout ce qui concerne l'enfance. Que ce soit les crèches, le périscolaire, que ce soit les écoles, le problème est le suivant. Normalement, lorsque l'on travaille dans l'enfance, y compris l'aide sociale à l'enfance, qui est le cœur de mon activité, lorsque l'on travaille dans ce milieu-là, on doit justifier, celui qui va être embauché doit justifier de son FIJAS, c'est-à-dire il y a un fichier des condamnations pour les actes de violence, notamment les actes sexuels, les attouchements sexuels, les viols. Dans ce fichier-là, il n'y a pas que les gens qui sont condamnés, c'est là où ce fichier est intéressant. Dans ce fichier-là, il y a également les gens pour lesquels une enquête a été ouverte et qu'elle a pu ne pas porter de fruits de condamnation. Par exemple, un dossier qui va être classé sans suite ou qui va donner lieu à un non-lieu. Donc c'est un fichier qui est vraiment pratique pour nous, les gens de justice, c'est-à-dire on a un signalement des gens qui sont potentiellement dangereux. Normalement, lorsque l'on travaille avec l'État ou dans l'enfance, l'État c'est large, dans l'enfance, l'éducation, on doit justifier de ce fichier. Alors, lorsque c'est un personnel contractuel avec un CDD ou un CDI, la plupart du temps, ça doit y être. Ce qui va se passer, c'est que toutes ces structures de l'enfance, les crèches, le périscolaire, les activités annexes, sont dépassées, le nombre est important, la gestion est faite au mieux, c'est-à-dire pas super bien, et on va embaucher des intérimaires ou des gens qu'on embauche et à ce moment-là, on oublie. On ne le fait pas. C'est pas alors.
C'est-à-dire,
moi,
on
je
oublie.
Jette vraiment pas la pierre. Je jette pas la pierre. Je dis, c'est pas possible d'oublier. Mais nous, ce qu'on a très souvent, notamment nous, dans ce qui me concerne l'aide sociale à l'enfance, mais c'est exactement le même schéma, c'est qu'on va embaucher des intérimaires. On va embaucher des gens en intérim pendant un ou deux jours, on voit qu'ils font l'affaire, et à ce moment-là, on ne passe pas par le circuit normal. Et on va se retrouver avec des gens qui sont embauchés par nos administrations sans qu'on ait vérifié. Et c'est là où, alors, ce que fait Grégoire Bayou, alors moi, je n'ai pas d'a priori, moi, je ne fais pas de politique du tout. J'ai passé quelques heures avec Bompard il y a quelques jours et je l'ai trouvé avec de bonnes idées. Et ce que je dis aussi, c'est que souvent les gens de conviction, même quand elles ne sont pas les mêmes, il y a un engagement. Là, ce qui se passe avec Grégoire, c'est qu'il prend le chantier, tout lui tombe dessus et il se rend compte que c'est ça le problème. C'est un problème de l'administration qui a l'obligation de vérifier, qui ne le fait pas. Alors, je ne l'explique pas, hein. Moi, je pense que c'est intolérable. Hein. C'est intolérable. Surtout l'un des bonhommes. Alors, on n'est pas dans la procédure, ni vous ni moi, donc on ne peut pas non plus faire trop les ronflants. Hein. Et jeter l'opprobre sur les gens qu'on ne connaît pas sans avoir connaissance du dossier. Mais l'un d'entre eux semble avoir été déjà multicondamné. Ça veut dire qu'on a rentré un loup dans une bergerie, que, du fait de de l'incontrôle et de l'incompétence, les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est un choix. Alors, moi, que ces gens qui sont aux responsabilités disent on a fait faux, je trouve que c'est bien. Voilà. Moi, Grégoire, j'ai un a priori défavorable pour une raison. Lorsqu'il y a eu le débat pour la municipale à Paris, J'avais rencontré, moi, Dati, pour parler de notre sujet des prostituées, et elle m'avait reçu vite. J'ai dit, bon, ben, ça ne l'a pas intéressé, le truc. Et en fait, non, elle avait assimilé le truc, donc elle a pris le temps nécessaire pour prendre l'info, elle est partie. Et lorsqu'elle a eu le débat, elle s'est assise sur le travail qu'on a fait, et elle a dit, mais bon, et les prostituées? Et il a dit la chose suivante qui, moi, me désole, vous mentez, il n'y en a pas. Et moi, vous savez, je suis plutôt marseillais d'ascendance corse par mes épouses, puisque j'ai épousé deux femmes corses l'une après l'autre. Moi, j'aime bien la parole des gens. Celui-là, il a perdu tout crédit à ce moment-là. Mmh. Hein ? Là, ce qui se passe aujourd'hui avec ces administrations, mais attention, on parle de Paris, mais il va y avoir pareil à Bordeaux, il y aura pareil à Marseille, il y aura pareil à Lyon. Ouais. C'est que l'administration ne contrôle pas ce fichier. Et ce fichier, qui a été le fruit d'une longue négociation, il est vraiment super important, parce que non seulement il y a des gens qui sont condamnés, c'est-à-dire ceux qu'on a sanctionnés en disant « tu es coupable », mais surtout il y a ceux que l'on a signalés.
Oui, parce que en réalité, là, ce qui s'est passé encore récemment, c'est que un agent qui a été mis en examen cette année, eh bien, il avait déjà été condamné pour des violences commises en 2024. Et bon, finalement, l'affaire avait été classée finalement, mais il a en fait repris du service dans un arrondissement qui était à côté du sien. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que ses supérieurs n'ont jamais été au courant. Et d'une certaine façon, on a l'impression que il y a une forme de gestion qui se fait un petit peu à la semaine, sans prévisibilité, dans le sens où il y a un tel manque de personnel pour encadrer, pour protéger l'enfant, pour s'occuper de lui, que eh bien on embauche toutes les personnes disponibles et donc sans prendre le temps de vérifier. Est-ce que c'est justement ce sentiment d'urgence selon vous qui motive cette absence de soucis?
Oui, vous avez entièrement raison, le problème est là. On est dans l'urgence, mais il y a plusieurs trucs. Il y a le problème de l'embauche. Quand on va embaucher un personnel quel qu'il soit, il faut qu'on ait ce fichier, point. Que ce soit un intérimaire ou non. Et même si on est dans le cadre de l'intérim, pour avoir son fichier FIJAS, il faut un jour. Hein. Et en plus, l'administration, donc elle a un accès direct, ne venez pas nous dire qu'elle n'y arrive pas. Alors, il y a l'embauche. Ensuite, il y a ceux qui changent, par exemple, le type qui va être, je ne sais pas moi, Evry, et qu'on va mettre en plein centre-ville de Paris, n'importe où. Bon. On devrait en justifier, en fait, annuellement. Mmh. Et pas qu'à l'embauche. Ça devrait être un truc comme un certificat médical. Dans la mesure où, quand même, la matière première, c'est nos enfants. Ce que l'on doit protéger sont nos enfants. Le contrôle doit être maximum. Donc, on devrait faire un contrôle réellement annuel, en disant, on vérifie tous les FIJAS de tout le monde, une fois par an. Ce qui permet, par exemple, de voir si depuis le mois de mai dernier, le garçon ou la dame s'est pas pris une poursuite pour attouchement sexuel sur sa sœur, son neveu. Ça nous permettrait d'avoir une vista. Là.
Oui.
Seulement pour ça, il faut une politique publique de l'enfance. Et
c'est ce que j'allais dire, Michel Hamas. En fait, des entretiens qu'on réalise avec vous, on a l'impression que ce qui en ressort le plus, c'est l'absence totale d'une politique de l'enfance, comme si c'était une problématique nouvelle, vers laquelle, finalement, qu'on n'avait jamais vraiment traité, et qu'on se retrouvait dans une situation où on essayait de bricoler par-ci par-là pour que ça tienne debout, mais dans le fond, qu'il faudrait mettre en place une sorte de politique générale qui inclut l'ASE comme, effectivement, le périscolaire, comme l'éducation nationale, etc.
Oui, on est face à un... Alors en fait, on pensait que c'était bien géré tous collectivement. On dit, bon, l'école, c'est bien, quoi. Effectivement, l'école, c'est plutôt pas mal. On ne s'est pas rendu compte que des administrations ont pris le pas et que l'administration, par définition, c'est un mécanisme qui n'est pas violent et qui ne marche pas super bien. On est face à un truc qui a échoué un peu de partout et on n'ose pas dire, parce qu'ils n'ont pas osé dire. C'est tout simple. Hein. Mmh. 20 000 prostituées, on n'ose pas le dire. Les garçons qui attouchent les enfants dans les cours d'école, le surveillant, on le sait tous depuis longtemps. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas osé dire. Et là, on a un chantier, il faut travailler. Donc, l'avantage de Grégoire, il faut lui reconnaître qu'il a le courage, parce qu'il va prendre des coups et que c'est pas simple, mais tant mieux qu'il prenne des coups. Il est là pour ça, pour dire je vais faire mon boulot. Là, il faut qu'on mette les choses à plat. On a un problème global de non-contrôle parce qu'on pense bien faire et parce qu'on pense que les gens font bien aussi. On a délégué à des gens en disant ils font bien et ils font très, 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 très mal. Donc là, il faut il faut changer la structure, changer le process. Dès qu'on embauche un type, boum, on voit son Fijas. Mais chaque année, on va revoir son Fijas. C'est tout simple. C'est pour ça qu'on a fait ce... Alors, parfois, ils ont des idées géniales, les députés. Cette idée-là de dire on va faire ce fichier exprès, bon, c'est emmerdant, hein. Moi, je suis avocat, c'est-à-dire je défends des méchants aussi, hein. Imaginez, votre petite nièce, elle dit « Tonton, il m'a touché le derrière ». Vous, vous ne l'avez certainement pas fait. On part de ce principe-là. Mais vous allez avoir une tache à l'encre de Chine sur votre truc. Et dès qu'on va avoir une petite qui va se faire toucher, vous apparaîtrez. Mmh. C'est-à-dire, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a des gens qui sont innocents. Alors, ils ne sont pas tous innocents. Mais il y a des gens qui vont faire l'objet d'une information qui leur tombe des nues. Moi, j'avais eu un grand-père qui a été poursuivi pour viol sur sa petite-fille parce que la petite-fille à l'école disait tous les soirs « Mon grand-père me saute ». Effectivement, il la faisait sauter, il a sauté en l'air, il la reprenait dans les bras comme font souvent les grands-pères. Mmh. Mais par contre, lui, il a une tâche, un truc indélébile. Ce qu'il y a, c'est que par contre, il faut automatiser. Il faut qu'on dise, bon, on a un vrai problème ensemble. Il faut, un, automatiser le contrôle et qu'il soit régulier. Parce que dans une vie, entre le moment où il est embauché et 4, 5, 6 ans après, on peut avoir une condamnation et nous, on doit le vérifier. Mmh. Nous, on doit vérifier parce que quand même, la matière première de l'école, de l'assistance, c'est l'enfant. On doit mettre pour l'enfance le max de moyens et on se rend compte qu'on n'a pas de moyens. Dans le périscolaire, il y a énormément d'intérimaires. Mmh. Moi, je veux bien. C'est qu'on est des intermédiaires. Mais par contre, on voit, nous, tous les gamins de nos amis, les nôtres, qui veulent travailler dans le périscolaire et qui n'y arrivent pas. Comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui veulent aller travailler dans le périscolaire et qu'on n'y arrive pas? Parce qu'on est obligé de leur faire des contrats. Souvent, c'est un régime qui est un peu dérogatoire du droit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment dans l'administration, ils ont des contrats en bois, ils sont renouvelés de mois en mois. Faisant face au truc en disant maintenant il faut, c'est un problème de budget, mais il faut faire face au truc. On n'a pas tant d'enfants que ça puisqu'on est en train de notre nos chiffres baissent, mais bon, faisons face aux enfants qu'on a. Faisons face aux enfants qu'on a et dignement. Là, le problème qui se passe avec le périscolaire à Paris, c'est que on se rend compte maintenant, et c'est apparent et ça nous pète à la gueule, que personne n'a pensé globalement à dire il faut une politique.
Et finalement, effectivement, c'est ce qu'on retiendra de cet entretien, c'est que finalement, on peut continuer à essayer de bricoler, on peut continuer à essayer de faire tenir ça debout, et c'est sans doute ce que peuvent faire de mieux les personnes qui ont peu de responsabilités, mais peut-être que ceux qui sont au-dessus doivent, effectivement, peut-être qu'on doit penser une politique générale de l'enfance. En tout cas, c'est quelque chose à quoi vous nous aidez beaucoup, Michel Hamas. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
C'est un plaisir
ici.
D'être avec vous, toujours.
Et écoutez, on vous dit à très bientôt ici sur notre antenne. Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de Ligne Droite, c'est la fin de cette matinale pour aujourd'hui. Et pour que ça se poursuive, nous avons besoin de votre soutien.
À nouveau, nous vous demandons de faire un geste pour soutenir Radio Courtoisie en vous rendant tout de suite sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Ou vos chèques au 61 boulevard Murat, libellés à l'ordre de Radio Courtoisie. Je vous rappelle la soirée des Bobards d'Or ce soir. Renseignements et réservations sur bobard-d'or.fr. Il y aura Pierre-Alexandre Bouclet et une partie de l'équipe de la radio.
Eh bien, c'est merveilleux. Et alors, quel est le programme du jour, Franck ?
Eh bien, à midi, je vous donne les principaux rendez-vous. Le libre journal des historiens de Philippe Courade pour un courant d'idées méconnues autour de l'histoire de la nouvelle droite. 14h, le libre journal des cultures et de l'exploration de Pascal Maurer. 16h, les répliques du nouveau conservateur dirigé par Valentin Gore. 17h30, Restons courtois, l'intrigant Arthur et le valeureux Vatrigan au programme, quel beau titre. Et puis à 19h30, le libre journal de la résistance française dirigé par Nicolas Stocker. Enfin, à 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer et la soirée musicale de Virginie autour de Prokofiev à 23h.
Eh bien, c'est un très joli programme et nous, on vous en propose un aussi pour demain où nous parlerons avec Aurélien Lopez-Ligori, nouveau maire de la ville d'Agde. Nous ferons aussi un grand entretien sur la GPA et puis enfin, nous parlerons
parlerons de pédophilie avec Alexandre Allégret-Pilot, donc plein de sujets particulièrement importants que vous appréciez, chers auditeurs. Moi, je vous dis donc à demain, 7h.
À demain.